Je vous lis dans Jacques 5, ce verset. Verset 16, la fervente supplication du juste peut beaucoup. Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous, et il pria avec instance qu'il ne plût pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voilà Élie qui nous est montré par l'épître de Jacques comme un homme de prière. Tout à l'heure, au tout début du chapitre 17, on était étonné, en effet, de voir que Élie tout de suite s'adressait et donne cette instruction, l'Éternel, devant qui je me tiens, dit que, etc., dit à Akab. En fait, l'épître de Jacques nous montre que Élie avait été cet homme de prière et qu'il avait déjà prié et qu'il était... Et le Nouveau Testament, c'est toujours cela, il nous éclaire. Il éclaire l'Ancien Testament. Inversement, l'Ancien Testament nous montre et nous fait découvrir toutes les images que Dieu avait préparées pour nous dévoiler ce qui allait être parfaitement révélé dans le Nouveau. L'un et l'autre sont indissociables. La Bible, ce livre-là, est à regarder dans son entier. On ne peut pas séparer ni un côté ni l'autre. Donc, Élie est un homme de prière. Mais il avait les mêmes passions que nous. Et nous allons le voir dans son découragement, mais Dieu voulait, et dès le début, Dieu s'est occupé d'Élie. Les leçons dont a parlé Jean, que ce soit celle du Kérite, que ce soit celle de Sarepta, il prenait son serviteur et il le formait parce qu'il avait besoin. Il avait besoin, ce serviteur étant un homme comme nous, d'apprendre. Il a fallu qu'il apprenne au Kérite la leçon du vase vide. Il a fallu qu'il apprenne à Sarepta la leçon de la consécration à l'Éternel. La veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait. Voilà une femme qui donnait tout ce qu'elle avait. Dans l'Évangile, une veuve a donné une fois 2 pites, tout ce qu'elle avait. Une consécration. Ainsi, Élie a été formé comme nous avons besoin de l'être. Et de l'être dans tout notre chemin. Depuis le départ jusqu'à la fin. Élie est le prophète du Dieu vivant et il est un homme comme nous. Et ayant été démontré homme de Dieu, à la fin de ce chapitre 17, il a pu se tenir comme un homme de Dieu et donner gloire à l'Éternel dans le triomphe remporté et dans le jugement qui a frappé non pas les prophètes. Il y a eu un sacrifice. Le jugement est tombé sur l'autel. Et les prophètes, après, sont passés par le jugement. Mais il a fallu qu'il y ait ce sacrifice. Alors voilà, nous sommes arrivés à l'apogée d'Élie. Et pourtant, nous le lisons tout de suite, et je ne vais pas tout le lire parce que le temps est avancé. On a tellement de choses aussi intéressantes à rappeler. Et nous n'épuiserons jamais la parole. Ne pensons pas que nous allons l'épuiser, même à travers cette demi-heure encore qui nous reste. Il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous donner quelque chose. Peut-être une autre fois, s'il n'est pas encore venu, lorsque nous relirons ces pages, lorsque vous relirez, chers amis, ces pages, et le texte que nous n'allons pas lire, vous trouverez encore des merveilles. Et nous trouverons toujours quelque chose de merveilleux. Chapitre 19. Akab raconte à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, et en détail comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie, disant « Ainsi me fassent les dieux, et ainsi ils y ajoutent demain, à cette heure, si demain à cette heure je ne mets ton âme comme l'âme de l'un d'eux. » Et voyant cela, Il se leva et s'en alla pour sa vie à Beersheba. Verset 4, dans le désert, sous un genêt. Fin du verset 4, je ne suis pas meilleur que mes pères. Un ange le touche, verset 5, lève-toi, mange. Verset 7, l'ange revient une seconde fois, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et il alla avec la force de ses aliments jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu, et là il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel vint à lui et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit, « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, je suis resté moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Et l'Éternel, fin du verset 11, n'était pas dans le vent, après le vent un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu non plus. Et puis, après une voix douce, subtile, et il arriva quand Élie l'entendit, qu'il enveloppa son visage dans son manteau et sortit, et se tint à l'entrée de la caverne. Et une voix lui parla, lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie dit, « J'ai été très jaloux pour l'Éternel. » Alors l'Éternel, au verset 15, lui dit, et l'Éternel lui dit, va. Le quatrième va. Retourne par ton chemin vers le désert de Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour qu'il soit roi sur la Syrie, et Jéhu, fils de Nimshi, et tu l'oindras pour qu'il soit roi sur Israël. Et tu oindras Élisée pour qu'il soit prophète à ta place. Et verset 18, « Mais je me suis réservé en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. » Et verset 19, « Élie s'en alla et trouva Élisée. Élie passa vers lui et jeta son manteau sur lui. » Et à la fin du verset 21, Élisée et ils mangèrent, et il se leva, Élisée se leva et s'en alla après Élie, et il le servait. Nous n'avons en effet pas tout lu, chers amis, de ce chapitre. Mais arrêtons-nous maintenant sur quelques pensées, sur quelques images, quelques expressions de la parole, car Dieu veut encore parler et nous enseigner. D'abord, la première chose, c'est que nous ne sommes pas là pour émettre un jugement sur un serviteur de l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour juger Élie et dire « Élie, Élie a mal fait » et porter quelque chose. Non, mais nous sommes là pour apprendre. Et probablement la défaillance d'Élie est la seule défaillance qui est rappelée dans le Nouveau Testament. Mais c'est pour que nous apprenions. La manière dont l'Éternel s'est occupé de son serviteur est extraordinaire. Nous allons voir. D'abord, Élie ne se tient plus devant l'Éternel. Il y a quelqu'un qui est entre lui et l'Éternel. Ce quelqu'un, c'est Jézabel. Chapitre 17, il se tenait devant l'Éternel. Maintenant, c'est fini. Jézabel est là, avec tout le mal qui la caractérise, comme celle qui a inspiré et qui a poussé Akab. On le voit dans un autre verset plus loin. On voit que Akab est ce roi qui a été poussé par sa femme. Jézabel est là, inspirant tout ce mal contre Dieu lui-même et contre son serviteur. Elle veut mettre à mort son serviteur. Alors comme Élie a cet écran devant lui, Jézabel, à ce moment-là, voyant cela, il se lève pour sa vie. Il l'a quitté à cet instant le chemin de la foi. Il voit le cri de la détermination de Jézabel, il a peur pour sa vie. Autrefois, Pierre aussi a vu le vent. Ah, il quittait à ce moment-là également Et il commençait à enfoncer dans l'eau. Il a vu le vent, la tempête. Il s'éloigne. Voyant cela, il s'en va pour sa vie. Il va dans un désert, sous un genêt. Et là, que fait l'Éternel ? Va-t-il faire un reproche à Élie à cet instant ? Il envoie son ange. Ce n'est plus les corbeaux. C'est son ange. C'est l'Éternel qui va venir, à travers son ange, s'occuper lui-même de son serviteur. C'est maintenant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme. Voilà, c'est la cinquième prière d'Élie. Ce n'est pas la meilleure prière qu'il pouvait faire monter. À cet instant, il dit, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors, ceci nous amène et on voit le chemin qu'a suivi Élie. Et dans son service, peut-être, il a pensé un moment que ce qu'il avait fait de manière assez extraordinaire. Pourtant, les paroles du chapitre 18 sont magnifiques. Lorsqu'il veut donner gloire à Dieu, lorsque le feu va descendre, je ne suis que ton serviteur, et c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Mais voilà, tout d'un coup, Élie, et voilà, à cet instant, dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Comme s'il avait peut-être eu besoin dans son service d'être meilleur. Comme si son service, il lui-même avait fait quelque chose. Il quitte ce chemin où il était devant l'Éternel. Alors il se couche, l'ange revient une deuxième fois, et avec quelle douceur cet ange lui parle, « Car le chemin, lève-toi, mange, prends des forces, le chemin est trop long pour toi. » Quelle douceur, chers amis, quelle délicatesse que celle que l'ange de l'Éternel montre, et celle que notre Seigneur montre pour nous. Parce que là, nous allons parler de nous, qui sommes découragés. Oh, il en faut peu. Et alors, l'ange ou le Seigneur qui vient nous dire, mais vas-y, prends des forces, le chemin est trop long pour toi. Quel chemin que celui que je t'ai fait, quel chemin je t'ai fait passer, Élie ? Tu as dû passer à Kérit, à Sarepta, je t'ai formé, tu as été démontré cet homme de Dieu, et puis tu avais ces 450 prophètes. Et puis il y avait Jézabel, et puis Akab, et puis Abdias. C'est vrai, Élie, tu étais bien seul. Oh, jamais l'Éternel ne dit autre chose. Le chemin par lequel tu passais était trop long. Et alors, c'est pour nous, c'est la même chose. Dans notre découragement, et il en faut peu de choses, dans un service, un découragement qui vient. Oh, prenons l'exemple, on a un jour fait quelque chose dans notre service, puisque chacun nous avons un service. Et puis, il y a eu une parole déplacée peut-être de quelqu'un qui est arrivé. Et voilà, on pensait avoir dit les choses bien. On pensait avoir présenté la parole correctement. Et puis, il y a quelque chose. Oh, une petite chose, de rien du tout. Et alors voilà le découragement. On pensait à être allé apporter des évangiles et puis distribuer ces évangiles. Et puis on se disait, mais quelle chose magnifique. Et puis voilà, il y a un petit truc qui fait que une ombre qui passe. Et nous sommes découragés. Chers amis, il en faut très peu. Ne l'oublions jamais. Il en faut très peu. Et nous sommes ainsi. Nous sommes ainsi. Et alors le drame, c'est que Élie, il va continuer, il mange, mais il va jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Il va aller vers Horeb, la montagne de Dieu, le Sinaï, là où il y avait, où la loi avait été donnée, comme étant persuadé que c'est là où il faut aller, parce que ce peuple, il a abandonné l'Éternel, parce que ce peuple doit être jugé. Quelle chose, c'est là, il va, là où a été donnée la loi, cet Élie. Et il entre dans une caverne et il passe la nuit. Il s'éloigne, il se retire. Alors encore un mot, chers amis, sur ce qui peut arriver lorsqu'on s'est découragé. Et ceci, c'est des paroles pour nous tous. Que fait-on ? On va peut-être pas aller dans une caverne comme Élie, mais on va peut-être rester à la maison. On va peut-être se retirer. D'ailleurs, il y a un verset entre parenthèses dans notre étude du chapitre 11 des Hébreux. Si on regarde juste avant le dernier verset du chapitre 10, il est parlé de ceux qui se retirent. On recule. On va se cacher. On va rester à la maison, puis peut-être on va dire c'est pas la peine que dimanche je vienne. Il y a bien des choses qui vont nous retirer. Et puis, peut-être un dimanche va passer, puis deux, puis trois. Puis après, peut-être on ira encore plus loin. Et en même temps, quand on fait ça, on est en train de juger nos frères. On est en train de juger nos frères. On se dit, mais... Et c'est ce qu'il y exprimait. Mais nos frères, même s'ils n'ont pas entendu cela, ils peuvent le réaliser. Ils peuvent le voir. Alors faisons très attention. Très, très attention. Voilà jusqu'où ce découragement peut amener. Mais alors, maintenant, écoutons les paroles admirables de notre Dieu, de notre Seigneur, puisque c'est l'Éternel qui parle à Élie, mais c'est dans l'esprit de notre Dieu et de notre Seigneur que nous connaissons aujourd'hui. Mais je voulais insister sur ce fait que se retirer, se mettre à l'écart, il y a un grand danger, chers amis. Faisons très très attention. On pourrait dire, bien souvent, on dit oui, mais il y a du mal, il y a ce... Non, faisons très attention avant de porter un tel jugement. Il faut, et chaque fois, et la leçon d'Élie, elle est là justement pour nous le montrer, pour que nous l'apprenions. Et nous pouvons faire beaucoup de mal, beaucoup de mal. Alors soyons encouragés. L'Éternel s'y emploie. Et voici la parole de l'Éternel vint à Élie et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ? Mais que fais-tu là au fond de cette caverne, au fond de ce trou ?» Et le Dieu, et alors Élie dit, « J'ai été très jaloux. » Je ne relis pas cette parole, on l'a eu dans Romains 11 encore, « J'ai été très jaloux. » Élie, à cet instant, accuse ses frères. Il accuse le peuple. Il dit, moi j'ai été jaloux pour toi, Éternel. Et mais voilà, le peuple a fait cela. Il accuse ses frères. Alors attention encore pour nous. Lorsque la petite remarque qui nous a été faite, on pourrait dire, mais attention, mais c'est sa faute, hein, c'est pas moi. Et voilà. Et après, on va petit à petit renchérir dessus et on devient celui qui accuse son frère. Celui qui accuse, ne l'oublions jamais, dans la parole, et qui accuse ses frères, c'est Satan. Apocalypse 21. Dans une circonstance analogue à celle d'Élie, je pense que nous pensons à celle de Exode 32, lorsque Moïse redescendait de la montagne et qu'il a trouvé l'Israël qui avait construit ce veau d'or. Et que fait Moïse? Est-ce qu'il dit « je suis jaloux » Est-ce qu'il dit « le peuple a fait ceci, cela » Non, Moïse va intercéder pour ce peuple. Il faudrait relire ces paroles-là. Je ne veux pas que ça nous éloigne, mais citons-les parce qu'elles sont importantes. C'est le symétrique de celle de ce chapitre 19 des Rois, dans lequel il dit « mais c'est ton peuple, c'est celui de ton peuple, c'est pour la gloire de ton nom, mais fais quelque chose. » Et l'Éternel écoutera la prière de Moïse. Autrement dit, n'oublions jamais, celui qui accuse, c'est Satan. Celui qui intercède, c'est Christ. Romains 8. Celui qui intercède pour nous. Et puis d'autres passages. Mais on pourrait lire Romains 8, 34, celui qui intercède. Alors d'un côté, Satan qui accuse, de l'autre côté, le Seigneur qui vient intercéder pour nous, qui va prier pour nous. Pense à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Là, l'Éternel s'occupe de son serviteur, de son très grand serviteur. Et donc, il va lui dire, que fais-tu ici, Élie ? Élie était donc dans cette caverne. Et il lui dit, sors, verset 11. Il le fait sortir. Tiens-toi sur la montagne. Il va voir quelque chose. Ceci nous fait penser encore cette délicatesse avec laquelle l'ange et Dieu parlent à son serviteur. Nous fait penser à un autre serviteur de Dieu, Jérémie. Et nous en avions parlé il y a quelques années ici même, qui un jour a été au fond d'un trou. Et il a été sorti, il avait été mis volontairement par ses ennemis. On trouverait ça dans chapitre 28, je crois, je ne m'en suis pas sûr, mais on peut chercher. Et il a fallu le sortir de ce trou, et puis il y avait un serviteur éthiopien qui est venu, un esclave éthiopien, qui est venu, puis qui a sorti Jérémie, et puis on a dit, faites attention en le sortant, mettez bien des tissus sous les cordes pour ne pas le blesser. Ceci nous parlant du soin avec lequel une âme, ou peut-être nous, dans un service que nous pouvons avoir auprès de quelqu'un qui est au fond du trou. Comment aider cette âme? Alors faisons très doucement, avec la délicatesse de notre Seigneur, mettons bien ces coussins sous les aisselles pour ne pas blesser celui que nous voulons aider à sortir hors du trou. Et là, l'Éternel nous montre ce suprême exemple, la manière dont il parle. Il aide Élie à sortir de sa caverne. Et il lui dit « Sors ». Élie sort. Et alors va passer maintenant devant Élie le tremblement de terre, le vent, le feu, tout ce que Élie désirait. Il pensait qu'il fallait ce jugement pour le peuple. Eh bien non, pas l'Éternel. L'Éternel n'est pas là. Il n'est pas là. Mais alors, voilà qu'arrive la voix douce et subtile. Et il arriva quand Élie l'entendit qu'il enveloppe son visage. Il se tient à l'entrée de la caverne. Il a le visage couvert. Et là, Élie se rend compte à cet instant de quelque chose. La voix douce et subtile, c'est cette voix de la grâce, cette voix de ce Dieu qui aime son serviteur, qui aime son peuple. Et alors, cette voix lui parle de nouveau et lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Deuxième fois, Élie répond de la même manière. Mes chers amis, en relisant ce texte, je me suis dit, mais la deuxième fois que la question est posée, Élie n'était pas au même endroit. Première fois, il est dans la caverne. Et la deuxième fois, il est sorti. Il est à l'entrée de la caverne. Alors, l'Éternel lui adresse la même question. Bien sûr, cette question, c'était certainement ce qu'il y avait toujours dans la pensée de l'Éternel pour montrer à Élie ce qu'il faisait, mais il y a quelque chose de plus. À l'entrée de la caverne ici, Élie venait de voir et d'entendre cette voix douce et subtile. Alors c'est comme si à cet instant, l'Éternel lui dit, mais Élie, tu as entendu? Tu vois? Que fais-tu là? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu viens d'entendre à cet instant? Et le cœur d'Élie est encore fermé. Mais cette voix de l'Éternel à cet instant, c'était la voix qui disait, « Mais tu vois, je porte ce jugement sur ce peuple, Élie, mais tu vois, ce peuple, je l'aime. C'est mon peuple. C'est mon peuple. Et est-ce que toi, tu aimes comme moi ce peuple qui est le mien? Est-ce que tu l'aimes, ce peuple comme moi? Est-ce que tu l'aimes comme tu vois que je t'aime, toi? Ou bien, est-ce que tu es plus digne d'être aimé que ce peuple? » Ces expressions que je lis là sur des notes que j'ai marquées ont été rappelées par un frère un jour. Je les trouve très belles. Voilà ce que l'Éternel est en train de dire. Élie, aime, tu sais que j'aime ce peuple. Et toi, est-ce que tu l'aimes comme moi? Ou est-ce que tu penses que tu es plus digne que lui d'être aimé? Là, Élie ne savait pas encore que l'Éternel avait 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi devant les genoux de Baal. Il ignorait. Mais l'Éternel veut lui montrer d'abord que cette voie de la grâce est celle-là. Que c'est sur le pied de la grâce qu'il y a un résidu. Nous l'avons lu dans Romains 11 tout à l'heure. Que ce résidu est là et que l'Éternel et que Dieu aura toujours pour lui un résidu à lui, aura toujours un peuple uniquement sur le pied de la grâce. Il existera toujours. Alors, chers amis, nous retenons cette leçon, j'avance. Mais que fais-tu ici? C'est la deuxième fois. Et alors, Élie dit encore moi seul. Et puis, alors, l'Éternel lui dit, ben va, quatrième va. Mais il lui dit, retourne ton chemin. C'est pas mon chemin. Élie, c'est pas mon chemin, c'est pas celui que je t'ai donné, c'est celui que tu as pris tout seul. Tu l'as pris tout seul quand tu as quitté devant Jézabel. C'était ton chemin, c'est toi qui es allé vers la caverne, et etc. Tu t'es mis là-dedans. Moi, je t'en ai sorti. Mais toi, maintenant, tu retournes ton chemin. Et puis tu vas oindre Azaël, Jéhu, autrement dit, les deux rois, roi sur la Syrie, roi sur Israël, et puis tu oindras Élisée pour qu'il soit prophète à ta place. À cet instant, Élie ne dit rien, le silence. Mais là, Élie comprend, et c'est la suite qui va nous le montrer qu'il a compris. Et Dieu lui dit, voilà, il y a 7000 hommes que je me suis réservé. J'aime aussi bien rappeler toujours cela, chers amis, c'est que 7000 hommes qui n'ont pas fléchi, c'est vrai, qui n'ont pas fléchi le genou. Mais il y a une expression qui est quand même là. L'Éternel dit, je me suis réservé. Pourquoi ce verbe est là? Et non pas un autre, n'est pas pourquoi ce n'est pas écrit plus simplement? Parce que justement, réservé, on retrouve cette pensée de consécration à Dieu, à l'Éternel, de consécration pour notre Sauveur. Un homme, un croyant, un fidèle, réservé. Est-ce que nous sommes de ceux qui sont réservés? Réservés, qui ont conscience que nous appartenons. Il n'y a pas de chose plus belle que celle-là. Que celui qui est, quand l'Éternel y est réservé, mais s'ils sont à moi, ces hommes, ils sont à moi, ils me sont réservés, c'est les miens. Ils n'ont pas fléchi, mais ils m'appartiennent. Le Seigneur aujourd'hui dit la même chose. Vous m'appartenez. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Tu m'appartiens. Chers amis, retenons bien cela. Retenons-le, c'est la source de notre force et de dans notre vie, dans notre chemin. Savoir que nous appartenons à Christ, qu'il est lui, c'est lui qui nous a pris, c'est lui qui nous a appelés, c'est à lui que nous sommes. Ne l'oublions jamais. Jamais cette pensée devrait s'écarter. Jamais elle devrait s'écarter devant nous. Si nous avions réalisé davantage que nous appartenions à Christ, nous n'aurions pas de problème lorsqu'on parle de séparation. Ça dirait tout seul, c'est évident. Mais c'est mon Sauveur, je suis à lui, je lui appartiens. Mais je ne me poserai pas de questions. Ça serait naturel. Ça serait naturel que, à ce moment-là, je lui appartiens, je fais partie de sa famille, je suis un témoin pour lui, et il m'aime. Et pourtant, je suis découragé de temps en temps, mais le voilà. Il vient m'encourager, ce Sauveur, il m'aime. J'appartiens à quelqu'un qui m'aime, j'appartiens à quelqu'un qui est puissant, j'appartiens à quelqu'un qui a triomphé, qui a remporté toute la victoire. C'est cela qu'il nous faut bien retenir. Alors nous avançons, parce que l'heure est là aussi. Il faudrait toujours, il y a beaucoup de choses qui sont à dire. Alors les chapitres 20, 21, 22, nous avons là les rois qui... Ah si, il y a une pensée importante quand même, celle que Élie, l'Éternel lui avait dit, mais tu vas oindre Hazaël et Jéhu et Élisée. Et Élie qu'a-t-il fait? Verset 19, et il s'en alla et trouva Élisée. Il a oint Élisée, tout de suite. C'est là, c'est le fait qui nous montre à cet instant que Élie a compris. Pas une parole est sortie de sa bouche, mais cet instant, Élie a compris. Tout de suite, il va remettre son manteau à Élisée. C'est comme si à un moment, Élie dit, mais il y a un cantique que j'aime bien qui nous dit, « Confus, brisé, je me rends. » Confus, brisé, je me rends. Élie est en train, dans son cœur, de dire, « Oui, Éternel, oui, mon Dieu, le Dieu vivant devant qui je me tiens, devant qui je me suis tenu. Tu as raison. Confus, brisé, je me rends. Je me rends, et que je vais, qu'ai-je faire? Qu'ai-je faire tout de suite? Je vais oindre Élisée. C'est vrai. Je vais oindre Élisée. Pas dans l'ordre dans lequel l'Éternel lui avait dit. Je vais oindre Élisée. Et en ceci, Élie nous montre de manière magnifique qu'il a compris l'esprit dans lequel l'Éternel, Dieu, lui a parlé. Alors le chapitre 20 nous montre au contraire, il y aurait des trésors là-dedans, mais ça, on s'éloigne un petit peu de l'histoire d'Élie. Je voudrais vous dire et rappeler pour nous, dans les 5 dernières minutes, ce moment où Élie a été enlevé, donc au chapitre, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 2, et nous avons à cet instant, au verset 12, cette parole, et Élisée le vit. Non, il arrivait au verset 11, et il arriva comme ils allaient, chapitre 2 du deuxième livre des rois, verset 11, et il arrivait comme ils allaient, marchant et parlant, que voici un char de feu et de chevaux de feu. Et ils les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Et Élisée le vit et s'écria, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Et il saisit ses vêtements et les déchira en deux pièces. Et il releva le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui, et s'en retourna et se tint sur le bord du Jourdain. Et il prit le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui, et frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Voilà la dernière question. La dernière question, et nous nous arrêterons là, chers amis. Nous avons lu, entendu ces trois questions. Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés? Que fais-tu ici, Élie, par deux fois? Et là maintenant, c'est une question d'Élisée, qui dit, alors qu'il vient de voir Élie monter dans un char de feu, dans un tourbillon, qui dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alors, chers amis, arrêtons-nous sur cette pensée. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Élie avait été l'accusateur de ses frères. Un mot que j'aurais dû dire, que j'ai oublié, c'est que jamais Dieu ne permet, jamais Dieu ne permet que l'on dise du mal de son peuple. Et ceci sera toujours relevé. Ne disons jamais du mal de nos frères. Jamais. Jamais du mal du peuple de Dieu. Souvenons-nous de Balaam, il n'a pas pu maudire le peuple. Ce que l'Éternel a fait avec Élie, il l'a fait tout seul. C'était caché aux autres, c'était entre Élie et lui. Donc jamais ceci, et jamais Dieu ne permet qu'on dise du mal d'un serviteur, d'un de ses serviteurs. C'est lui, et lui seul, qui peut parler à son serviteur. C'est lui et lui seul qui va l'arrêter. C'est lui et lui seul qui sera trouvé le moyen. Donc n'oublions jamais. Et donc là, nous arrivons à cet instant où Élie a été enlevé dans la montagne d'une manière magnifique, glorieuse. Mais quel triomphe! Quel triomphe! Un char de triomphe pour ce serviteur. Dieu connaissait, Dieu a reconnu là tout ce qu'on son serviteur avait fait pour lui. Et de quelle manière il l'avait glorifié, il est enlevé dans un char de feu. On retrouve Élie sur la montagne, nous l'avons rappelé avec Moïse, à la fois comme peut-être la loi et les prophètes autour du Seigneur. Et que faisaient Moïse et Élie sur la montagne, la sainte montagne? Ils parlaient de la mort de Jésus. Est-ce possible? Ils parlaient de la mort de celui qu'ils ne connaissaient pas, mais dont ils avaient la vie. Ils possédaient la vie en eux-mêmes de ce Seigneur. C'est lui la source de la vie. Et alors, au moment où Élisée reprend ce service, il peut dire, mais où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Que ce soit pour nous, le désir, la seule chose qu'il nous faut retenir, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est celui qui m'aime, celui qui nous a aimés, celui qui nous accompagne, et qui, comme il a accompagné Élie, comme il a formé Élie, comme il l'a soutenu dans ses découragements, c'est ce même qui aujourd'hui encore nous aime, nous fortifie. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? C'est lui qu'il nous faut chercher, c'est à lui qu'il nous faut aller.